Fier, fort en gueule surtout. Et puis, bon, bien sûr, fier de ce qu'il faisait, parce que même, je vous parlais de cette ambiance de fête, mais c'était surtout parce qu'on construisait quelque chose. On voyait un journal se faire, et puis on avait tous la fierté de faire le canard. Il fallait qu'il tombe à l'heure. Alors, bien sûr, on avait le temps d'aller boire un coup, on avait le temps de discuter, on avait le temps, mais on n'avait en fait pas le temps. On prenait le temps, mais on n'avait pas le temps, ce qui fait que bah, il fallait rattraper. Et de toute façon, on rattrapait. De toute façon, on rattrapait. Quels que soient les événements et quel que soit le nombre de personnes qui étaient là. Si le journal était prévu pour faire 20 pages et puis qu'il y a un événement imprévu dans le cours de la fabrication, on passait de 20 à 32 sans pour autant... bon, le canard avait peut-être un petit peu de retard, tout ça, mais on faisait le travail. Et on était là pour ça, et il n'y avait pas de pardon. L'essentiel, c'était de faire le boulot. Alors, en dehors de ça, bah, c'est vrai qu'il fallait bien aussi un petit peu se détendre, et que, mais c'était vraiment très, 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 très typique à la presse, ce genre de... Moi, j'ai travaillé plusieurs années avant d'entrer en presse dans le labeur, où là, c'était l'atelier bien rangé, bien organisé, on commençait à l'heure, on finissait à l'heure, on avait un certain travail à faire, et puis bon, c'était une ambiance feutrée, tout le monde travaillait, c'est normal, on avait un compte à mettre sur le dos, et puis il fallait faire le boulot. En presse, on a aussi de l'encadrement, on a aussi des gens qui sont là pour faire le travail, mais ça se passe pas du tout pareil. Là, alors, c'est l'ambiance, je vous dis, très très forte, où on parle beaucoup, où on crie beaucoup. Et puis, il y a aussi les conditions de travail, je veux dire qu'il fallait bien sortir. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai commencé à travailler dans une boîte de presse pour faire, à l'époque, c'était un journal économique. Je suis descendu au deuxième sous-sol. C'était le noir complet, enfin, c'était le noir, c'était pas la mine, hein, mais c'était le noir. Les conditions de travail, moi, j'avais jamais connu des conditions de travail aussi mauvaises. Au plan de la sécurité, au plan de l'entretien des locaux, au plan de la simple hygiène, c'est-à-dire que il y avait de l'encre partout. Si vous voulez, on prenait pas le temps de faire le ménage était fait, mais je veux dire c'était noir, hein. C'était le deuxième sous-sol, et bon, il y avait des lampes qui éclairaient un petit peu les marbres, et chaque machine avait sa lampe particulière, mais c'était vraiment très très sombre. Alors que je venais d'entreprise du labeur où on travaillait sous une verrière, on avait des postes de travail bien définis, qui étaient bien rangés. Alors que là, on arrive, bien souvent, on n'a pas trop de postes bien définis, on fait ce qu'il y a à faire, et rapidement, il y a bientôt des habitudes qui se créent, chacun va dans son petit coin et fait un petit peu ce qu'il a l'habitude de faire. Mais au niveau de l'hygiène, au niveau de la sécurité, il y avait quand même des choses à dire, hein, c'est sûr. En plus, c'était une toute petite imprimerie où on imprimait un journal financier, où les machines à imprimer étaient dans le même local, mais vraiment dans la même pièce, sur une grande pièce avec un mezzanine. Sur le mezzanine, il y avait 15 lino, machines donc à composer. Au rez-de-chaussée, il y avait les marbres, les cases de caractères, puisqu'on utilisait quand même des caractères pour faire les titres, pour faire les sous-titres et tout ça. Et puis, il y avait les deux machines à imprimer qui faisaient un bruit infernal. C'était des duplex à l'époque et qui faisaient vraiment un bruit infernal. Et en plus, on travaillait dans cette entreprise, on travaillait quand même beaucoup. On commençait le matin entre 5h et 6h et on pouvait travailler jusqu'au soir 8h. C'était donc quand même des journées extrêmement longues. On faisait deux éditions par jour, une édition du matin et une édition du soir. Et il y avait donc des journées extrêmement longues. Alors bien sûr, on était correctement payé, mais je veux dire, c'est ça.
Correctement payé, vous gagniez à l'époque 3 fois le SMIC, c'est ça à peu près?
À l'époque, c'était la garantie de la convention collective. Oui, on devait avoir 3 fois le SMIC, mais en presse, on était encore au-delà de ça.
Ça faisait quand même beaucoup de salaire.
Je me rappelle, ma femme était employée au PTT. Je gagnais en une semaine ce qu'elle gagnait au mois. Ça a bien changé, hein. Ça a bien changé.
Vous étiez tout de même des aristocrates
ouvriers. Oui, on était toujours des ouvriers, on a une culture ouvrière, mais effectivement, on avait des payes assez solides, encore qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour le dépenser, parce que je vous dis, dans cette entreprise, on travaillait quand même beaucoup, et on travaillait bien souvent le samedi, donc on n'avait qu'un seul jour de congé par semaine. Donc. We'll be right back.
La première année était très dure, parce que je ne me plaisais pas tellement dans cette ambiance.
Vous étiez pensionnaire ?
Ah non, absolument pas, non, je rentrais chez mes parents tous les soirs. Non, non, de pensionnaire, il n'y en avait plus à l'époque. De pensionnaire, il y en a eu jusqu'en 1936. Toute fille qui se mariait était tenue de quitter la maison. Il faut dire que jusqu'en 55 par là, le personnel masculin, c'est-à-dire les rédacteurs, parce qu'on faisait aussi la mise en page de la croix dans le service, les rédacteurs n'avaient pas l'autorisation de franchir le marbre. Alors, il y avait que les pères de l'Assomption qui pouvaient se promener dans l'atelier.
Quelle ambiance quand même.
Alors oui, mais c'était comme ça. C'était l'esprit de la maison.
Et dans l'atelier, il n'y avait que des femmes.
Et dans l'atelier, il y avait, à l'exception de quand même de deux mécaniciens qui étaient là pour les grosses réparations sur les lignes.
Parce que c'est très rare, les femmes tipotes.
Ben, je crois que, à part les imprimeries Saint-Paul, hein, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ce sont des sœurs suisses, mais qui avaient une imprimerie du côté de Saint-Sulpice. Elles ont formé des femmes aussi, mais elles ne faisaient pas de mise en page de journaux. Nous avons vraiment été, sur le plan national, le seul journal à employer des femmes pour la mise en page, la composition et la mise en page.
Voilà le bruit caractéristique des linotypes. Et nous allons clicher la ligne, c'est-à-dire que la ligne va devenir bloc. Vous avez entendu les matrices descendre, et vont être clichées, les matrices sont gravées en creux, et dans le creux va être injecté du plomb en fusion à 280 degrés, qui va nous fondre la ligne. Alors, vous allez entendre le bruit de la fonte, de la clichage d'une ligne. Procurez-vous. Alors, la ligne étant clichée, vous la voyez descendre sur une galée, et vous entendez les matrices qui sont redistribuées automatiquement. On va la mettre au milieu.
Moi, j'ai toujours été typo. J'ai toujours refusé de passer à un clavier de machine à composer. Hélas, avec la photocomposition, j'ai bien été forcé d'y passer. Mais
pourquoi vous avez refusé ?
Parce que je trouvais que c'était un travail répétitif et bête. Et ça me, ils ne vont pas être contents s'ils m'entendent, les anciens linos. Mais je veux dire que ça ne me plaisait pas. Je préférais être au marbre et construire, composer les titres, construire la page, fabriquer la page. Pour moi, c'était vraiment le travail de typo. Être assis sur une chaise devant une machine et puis de composer sans arrêt des lignes, des articles, des Ça me plaisait pas tellement.
Et tout de même, le haut de gamme, c'était le typo.
Vous allez me flatter si vous dites ça, mais... Et puis les rotos ne vont pas être contents, mais je veux dire que c'est vrai que pour être typo, à l'époque, la connaissance du français qui était nécessaire. Je ne vais pas vous rappeler qu'avant, les typos portaient l'épée. Ça... Mais c'est vrai qu'il y avait une confraternité, il y avait un compagnonnage des typos. C'est vrai que la corporation des typos est... C'est plus le compagnonnage.
Et une vraie connaissance de la langue française.
Et une vraie connaissance de la langue française. Il y avait des typos qui étaient érudits, mais alors, c'était fou. C'était fou. Ils connaissaient, ils lisaient tout, ils savaient tout. Et en plus, le français, alors là, c'était... Ils reprenaient même les correcteurs. Les correcteurs pour qui c'était la profession, ben, il fallait pas leur faire. Hein. C'était eux qui avaient dit c'était comme ça, et le correcteur, s'il proposait autre chose, des fois, bien sûr, le correcteur avait souvent raison, mais des fois, il y avait un vieux tibou, il disait non, non, c'est pas comme ça.
Jean Martin, vous êtes un historien du livre, vous avez publié de nombreux ouvrages sur le livre, entre autres celui-ci que j'ai sous les yeux, Histoire et pouvoir de l'écrit, chez Perrin, et vous avez aussi dirigé avec Roger Chartier l'énorme histoire de l'édition française. Alors, j'aimerais bien avoir votre point de vue, parce que j'ai le sentiment que l'imprimerie génère énormément d'histoires. Et que c'est presque comme une épopée, que ça génère beaucoup de mythologie. On entend dire beaucoup de choses sur ce que Gutenberg, par exemple, a inventé. Alors, a-t-il inventé le type mobile ? Qu'est-ce que Gutenberg a inventé ?
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de légendes autour de l'histoire de l'imprimerie.
De belles légendes, d'ailleurs.
De belles légendes, mais ces légendes sont nées très vite dans les ateliers typographiques et à partir de 1540, puisqu'on date de l'invention de l'imprimerie de 1440, tous les 100 ans, tous les ateliers sont mis en ébullition, en même temps d'ailleurs que les universitaires en Allemagne, pour inventer des légendes de plus en plus belles sur l'invention de l'imprimerie.
Ceci dit.
Ah bah parce que tous les gens qui s'occupent d'imprimerie sont à moitié des intellectuels et à moitié des manuels, et ils sont extrêmement fiers d'être en partie des intellectuels. Ils ont conservé aussi un certain contact avec tout le folklore de l'époque, et à partir de ce moment, il y a une espèce de mélange qui crée des fêtes extraordinaires. Alors ça c'est certain, il faut ajouter une autre chose, c'est que Gutenberg n'est pas l'inventeur de l'imprimerie. Les inventeurs de l'imprimerie, si, du moins les premiers... Les premières personnes à y inventer l'imprimerie en caractère mobile, ce sont des Chinois et surtout des Coréens. Mais il faut bien ajouter, ils ont aussi inventé des systèmes d'imprimerie xylographique, il faut aussi ajouter que la conclusion à laquelle on arrive dans le grand livre de Needham sur les techniques chinoises, c'est que l'imprimerie en Orient a servi à conserver une culture traditionnelle avant tout et n'a pas servi à innover. Tandis que la culture de l'imprimé en Occident a servi à innover. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Quant à Gutenberg, je crois qu'on ne peut pas discuter que c'est lui qui au moins a fait la synthèse de l'ensemble de tout ce qui avait pu être fait dans différents domaines, c'est-à-dire la fabrication de caractères mobiles, la presse, l'encre grasse d'imprimerie. C'est lui qui a eu l'idée de réunir tout cela. Surtout son coup de génie, ça a été quand même d'être le premier en Occident à penser à diviser les textes selon les lettres et les blancs. N'est-ce pas ? C'est-à-dire les caractères mobiles typographiques. On l'avait déjà fait en Chine, mais il ne le connaissait pas, il ne savait pas ce qui s'était fait en Chine, et il l'a fait en Occident. Alors, la conséquence de cette invention, ça a été une normalisation. À partir du moment où la matière est intervenue dans l'écriture, eh bien la matière a imposé sa loi. À imposer sa loi de normalisation. On écrivait en plusieurs couleurs. Eh bien, on aura beaucoup de mal à imprimer en plusieurs couleurs. On imprimera toujours en noir. Tous les signes qui permettaient de guider dans les textes étaient des textes de couleur, des signes de couleur. Tout cela a été supprimé. Le résultat, ça a été au départ, et je ferai peut-être bondir beaucoup de gens, une immense bouillie. Une immense bouillie. Et puis après ça, eh bien, des gens ont essayé de mettre de l'ordre dans tout cela. Ça a été les imprimeurs humanistes. Et on a... au fond, créer une nouvelle manière de penser et une nouvelle visualisation des textes. Si vous prenez des textes médiévaux, comme des textes, par exemple, de Saint Thomas, le grand philosophe du Moyen-Âge, vous voyez qu'ils sont extrêmement compacts, balisés par des petits signes de couleur, mais qu'il n'y a pas du tout une visualisation des paragraphes, de l'organisation des raisonnements, quoi qu'on dise, parce qu'on dit souvent le contraire. Tandis que on va essayer de visualiser le texte, de le diviser en paragraphes. Ça va être très long. On ne sait pas ce qu'est un paragraphe dans la plupart des livres au cours du XVIe siècle. Et il est très typique de voir que, en ce qui concerne la philosophie française, la philosophie en français, c'est Descartes qui, le premier dans le discours de la méthode, compose un livre mis en paragraphes organisés qui permettent de respirer. Quand on a lu un paragraphe, on s'arrête, on respire, on pense à ce qui a été dit, on pense à ce qui sera dit, etc.
C'est autre forme. L'importance du blanc.
L'importance du blanc. Et alors là, vous voyez, c'est une importance dans les modes de raisonnement. Alors, on peut dire qu'il y a eu trois révolutions dans la typographie. Pour moi, la révolution du 15e siècle, c'est la révolution du livre. La révolution du 19e, c'est la révolution de la presse, du journal, du besoin de multiplier les journaux. La révolution de la photocomposition, c'est une révolution de la publicité. Et de plus en plus, on va utiliser des techniques typographiques qui prennent le lecteur aux tripes et qui, à mon avis, le prennent un peu trop. Et il faut faire attention à garder de l'héritage, ce qui est bon dans les traditions typographiques, tout en les renouvelant, bien évidemment. Et là, je ne suis pas du tout sûr que les gens qui manient la typographie actuellement soient conscients de ces phénomènes.
Quand vous dites que l'imprimerie a inventé de nouveaux modes de raisonnement, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Parce que je voulais vous poser la question de savoir ce que l'imprimerie avait apporté à l'histoire de l'humanité.
Eh bien, elle a imposé de nouveaux modes de raisonnement, dans la mesure, si vous voulez, où, à partir du moment où vous allez visualiser les textes, diviser les textes en chapitres avec des blancs, placer un certain nombre d'éléments qui seront des guides, vous allez guider la lecture, et en même temps, vous allez imposer une forme de raisonnement où on raisonne d'une manière suivie, mais en s'interrompant de paragraphe en paragraphe. Donc, quand on écrit, on fait un plan, on se dit, je vais dire ceci, 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 selon une mise en paragraphe. Et ça impose des formes de raisonnement, ça impose des formes de raisonnement, ça impose en quelque sorte beaucoup plus de rigueur dans la logique des textes. C'est ça, je crois, qu'a apporté l'imprimerie, pour une raison très, tout à fait matérielle, c'est qu'on alignait des petits signes de plomb et qu'il fallait savoir comment on faisait, si vous voulez. Il y a une influence de la matière sur le raisonnement qui est quelque chose de très frappant. Ça, je crois que tous les typographes le diront et le reconnaîtront. Alors, vous avez ça. Alors, au début, on a fait des livres. Et après ça, au 19e siècle, eh bien, il y a eu une nouvelle révolution, c'était la révolution de la presse. Alors, la révolution de la presse, qu'est-ce que c'est ? C'est une révolution où on essaye d'atteindre des gens qui savent lire, mais qui n'ont pas une culture suffisante pour lire des textes suivis, des livres suivis. Alors, on va arriver à une présentation de plus en plus morcelée. Et si vous feuilletez des journaux du 19e et du 20e siècle, vous voyez que c'est très tard qu'on arrivera à de nouvelles formes de mise en page. Et si je vous présentais, par exemple, même des journaux concernant la guerre d'Algérie et annonçant la mort de 300 soldats français dans un guet-apens, vous aurez ça sur deux colonnes ou trois colonnes avec un titre qui actuellement serait le titre d'un fait divers. Et de plus en plus, on arrivera à des titres qui soient des titres de plus en plus agressifs, et ceci sous l'influence aussi de la publicité qui se développe et qui développe de nouvelles modes de typographie. Alors nous en sommes là maintenant, mais on peut déjà observer que l'évolution actuelle des techniques typographiques impose maintenant d'autres techniques. Et puis il faut bien dire que les techniques modernes, c'est bien commode pour composer des textes. Mais alors là où vous aurez des changements, sans doute, c'est dans l'écriture. Actuellement, si vous écoutez Bernard Pivot, enfin des émissions de Bernard Pivot, vous voyez que les écrivains n'ont pas encore pris le virage, les vrais écrivains n'ont pas pris le virage de travailler sur une machine à traitement de texte. Moi, je le fais parce que j'écris des livres d'histoire. Mais le jour où ils le feront, eh bien, leur style changera. Et je pense qu'il y aura beaucoup moins d'élan, très souvent. Enfin, au fond, je me demande comment un véritable écrivain, moi je travaille sur une machine à traitement de texte, moi je ne prétends pas être un poète, mais je me demande comment on peut faire autrement que de travailler avec la plume pour avoir cette espèce d'élan qui est coupé quand on travaille sur un clavier. Alors là, c'est peut-être là qu'on verra le livre tel que nous le connaissons disparaître, et en revanche, des jeux de typographie remplacer peut-être des effets de style.
Image. Une image. C'est pas très français, mais enfin, j'aurais bien aimé faire la photo plus grande. Tu as pas encore eu le petit médaillon ?
Si, si.
On se tutoie parce qu'on fait le journal ensemble, mais des fois on fait la fête ensemble aussi. Quand on fait un Allah, hein, le Allah, c'est quand même assez célèbre. Tout le monde, tous les typos vous en parleront, ils vous le chanteront.
Allez-y.
Ah non, peut-être pas quand même. Là, l'ambiance y est pas quand même. Il faut un verre à la main, et puis c'est traditionnel. On chante pas le Allah si on n'a pas le verre à la main. Et donc, en plus, c'est vrai, je vous dis pour ça, pour me défiler, on ne chante pas le Allah si on n'a pas le verre à la main.
Allah, Allah, Allah. Allah, sauvé du confrère.
Après la tombée, comme on dit, après la tombée, on fait la fête et on installe sur les marbres les grandes feuilles de papier blanc et on installe les bouteilles, les verres, les casse-croûtes, le petit salé, c'est arrivé souvent, le petit salé, et on est là, puis voilà, on a fait l'essentiel du travail, le journal est fait, on recommencera demain bien sûr, mais l'essentiel est fait et là on fait la fête.
C'était fréquent?
Ah oui, 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 toutes les occasions sont bonnes. Les fêtes, les anniversaires, les Noël, jour de l'an. C'est vrai aussi que, bon, on travaillait 6 jours sur 7, finalement, les familles, on les voyait pas beaucoup, et on continue des fois à ne pas trop les voir. Il y avait une convivialité, il y avait une famille qu'on avait perdue à l'extérieur et qu'on retrouvait à l'intérieur du journal. Personnellement, j'ai pas de regrets. Je dis que je pense travailler aussi bien que je travaillais en plomb, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'il y a eu des spécialisations, c'est vrai que la photocomposition a fait disparaître certains aspects du métier qui nous étaient proches, notamment composer les articles. Alors maintenant, on ne les compose plus. Avant, on composait tous les articles, le journaliste l'écrivait, et puis nous, on composait. Alors, on refaisait un petit peu son travail, on corrigeait les fautes de français. D'ailleurs, ils s'en foutaient de faire des fautes de français, ils savaient qu'on allait corriger. Et puis, également, des tournures de phrases, des trucs comme ça qu'on pouvait, qui grammaticalement n'étaient pas corrects, on les refaisait. Mais là, maintenant, c'est terminé. Le journaliste, il fait son article sur un micro-ordinateur. Et puis, nous, on utilise le volume de texte qu'il a composé et puis on le met en forme. Avec nos qualités, avec nos défauts, avec la culture typographique qu'on a encore, heureusement. Et donc, c'est comme ça.
Vous avez bien réussi à vous recycler dans la photocomposition. Vous n'êtes pas malheureux de ne plus être typographe.
Non, non. Non, non, on est moins nombreux, c'est sûr. Moi, je n'ai pas eu de problème. Il y a certains camarades qui ont eu des problèmes. Mais là, bon. Et il y en a même qui ne sont pas recyclés du clou. J'ai à l'esprit un camarade qui s'est même suicidé. Qui n'a pas accepté la modernisation. C'est comme ça, c'est surprenant. Nous, on a été. En plus, c'était un excellent type. Quelque part, ça remue encore. Ça a été. C'est vrai que les traditions ouvrières, on dit que. Il y a des victimes, mais oui, des fois, on laisse sur le bord du chemin des gens intéressants.
France Culture, les hommes du plomb. Séquence presse, extrait du film documentaire d'Hervé Lachise, réalisé en 1982 à l'imprimerie du Monde, avant son passage à la photocomposition. Le monde du plomb. Un film de la vidéothèque de la ville de Paris.
Qu'est-ce que tu fais comme boulot?
Bah, je suis typographe.
Le typo?
Oui.
Et là, tu prépares une page pour l'édition de demain?
Oui, c'est ça. Et puis, c'est en plomb, tu vois, c'est l'ancienne méthode, soi-disant, c'est dépassé maintenant.
Pourquoi soi-disant?
Bah, parce que, par exemple, tu prends les Américains, c'était eux qui avaient tous les brevets sur le matériel ancien, là. Et puis, comme comme toute société basée sur le profit et sur le capitalisme, eh bien, ils ont décidé d'investir à tout va dans les ordinateurs et tout ça. Bon, je ne suis pas contre le progrès, si tu veux, mais les ordinateurs, c'est très bien pour certaines choses, mais il y a dans la vie, il y a des choses qui sont faites d'emblée comme il faut. Par exemple, on fait l'amour toujours de la même manière depuis que l'homme est l'homme. Et moi, je considère que la presse en plomb, comme ça, la fonte chaude, c'était au point, et que le matériel moderne n'a pas la souplesse du plomb. Cela dit, ils avaient des sociétés avec des capitaux à investir. Ils ont investi, ils ont ramassé le pognon, ils ont investi dans ce matériel-là. Après, il fallait qu'ils le vendent. Alors, pour le vendre, le seul moyen qu'ils ont trouvé, c'est de ne plus faire de pièces de rechange pour ce matériel-là. Ils ont coupé le robinet. Ils ont dit, hop, c'est plus possible, on n'en fait plus, il n'y en a plus. Alors comme ça, tous les clients sont obligés de passer par où ils veulent les faire passer, c'est-à-dire d'acheter les saloperies là, d'ordinateurs avec les écrans et tout le tremblement. Et en plus, on leur a fait miroiter les facilités d'emploi de ce matériel, et puis on leur a fait aussi miroiter l'économie sur le matériel humain. C'est-à-dire que voilà, avec cette méthode-là, vous allez voir, vous allez faire 100 pages avec 10 hommes, quoi. Et ils confondent avec les usines nippones qui marchent en appuyant sur un bouton. Moi, j'ai toujours... je me suis toujours senti bien.
Le plomb comme matière, c'est quelque chose...
On a quelque chose dans les lois. On sait bien que ça crée une maladie, le saturnisme. On sait que c'était un danger, le plomb. Mais ma foi, maintenant, avec les règles d'hygiène, bon, il n'y a plus tellement de cas de saturnisme. Mais au moins, on avait quelque chose. Tu vois, quand tu travailles, là, c'est concret. Tu sais, tu fais ton titre. Bon, bah, tiens, celui-là, il a une gueule qui ne me plaît pas. Bah, je vais le refaire autrement, et ainsi de suite. On sépare les deux choses dans notre esprit. Le contenu et la forme sont totalement séparés. On peut vomir le contenu, mais essayer de donner malgré tout la plus belle forme qu'on puisse. Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est curieux. Hein. Mais je reconnais que quand je passais devant la une, tu vois, quand on montait la une, quand je passais devant la une du Parisien libéré, des fois ça me tordait les trucs de voir ce qui pouvait sortir comme ordure. C'était une ordure finie.
Ouais, mais alors tu peux pas monter une. Je veux dire, avec la même attention.
Eh ben si quand même. Eh ben si quand même.
Jean-Jacques Eisenman.
Faut pas idéaliser ce monde. Vous savez, les métiers du livre, chez les typographes, on lit plutôt moins qu'ailleurs. Si on lit tellement de conneries. On lit pas plus qu'ailleurs, hein. C'est pas vrai. Moi je me suis occupé, parce qu'on a toujours ce réflexe, s'occuper d'une bibliothèque d'entreprise. Bon, très vite on trouve les 10-15% des gens qui sont les mêmes, qui reviennent régulièrement, les autres ils lisent pas.
Mais bon. Vous lisez pendant votre travail. Votre
quoi?
Travail c'est de lire.
Sans blague, lire quoi? Paris Turf? Je travaillais à Minute, je lisais Minute. Enfin, moi, je le lisais. Mais, non, mais, si vous pouvez savoir le nombre de conneries que j'ai composé dans ma vie.
Ça vous a pas gêné, ça?
J'ai pas le choix, faut que je mange tous les jours. C'est le contenant et le contenu. Il y a très longtemps que j'ai compris que si je devais travailler dans les journaux qui correspondent à mes idées, il y a belle durée que je serais maigre, mais alors très, 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 très maigre. Dans le système dans lequel nous vivons. J'en suis désolé, mais c'est comme ça. J'ai pas le choix. Faut que je mange, donc moi mon métier c'est de pouvoir noircir du papier d'une certaine façon avec un maximum de goût, si je peux, des choses comme ça. Maintenant ce que j'imprime, je dépend. Moi j'ai connu des journaux, j'ai piqué des crises, c'est pas possible. Ben, le patron m'a dit bon, ben, c'est pas possible, au revoir. Puis c'est tout. J'ai pas le choix. Pas plus qu'un ouvrier chez Renault qui fait des tanks ou vous qui allez interviewer je sais pas qui. Enfin j'imagine, je sais pas. Ben, vos professions, enfin les professions qui sont directement liées à la profession libérale, plus il y a des clauses de conscience, paraît-il, des choses comme ça. Mais nous, on n'a pas le choix.
Il n'y a pas de clause de conscience chez les typos?
Non, absolument pas. On n'a pas le choix. On est des ouvriers comme les autres qui faisons un métier donné, point. La seule chose qu'on est arrivé à imposer quand il y a le monopole de l'embauche, c'est que dans les journaux que nous traitons, nous refusons de passer des articles attaquant la fédération. La fédération, d'ailleurs. La CGT... C'est plus ambigu. Mais la fédération, ça oui. Bon, mais c'est la seule chose, et encore, on y est arrivé dans les périodes de haute pression syndicale. Dès que ça baisse, les patrons passent. Enfin, les patrons passent. Pas tellement, parce qu'ils n'aiment pas se battre là-dessus.
Quel est l'état d'esprit tout de même dont vous avez hérité par cette fédération, ce syndicat?
D'abord, je travaille. Mon patron, je le vois tous les matins, c'est Gutenberg. C'est Plantin. C'est. Non. Plus sérieusement, ce que j'ai hérité, c'est d'abord un contact avec les intellectuels.
Comme quoi? L'aristocratie ouvrière?
Non. Un contact avec les vrais, les écrivains, les auteurs. Et quand on s'aperçoit que ces écrivains, ces grands journalistes, ces auteurs, d'abord on sait mieux l'orthographe qu'eux et la syntaxe qu'eux. Et surtout, on les voit avec autant de talent. À 6 heures du matin, vous torchez un papier admirable, et sur 4 coups de téléphone, à midi, en ramenez un autre qui dit exactement le contraire avec autant de talent, je vous prie de croire, ça relativise beaucoup le poids des intellectuels dans la vie sociale. Et ça, c'est très important pour nous. C'est ça l'héritage. C'est qu'on peut se permettre d'avoir un minimum de recul. Avec ça, il y a le fait de toucher un beau produit qui est quand même la pensée. Je vous disais tout à l'heure que moi j'ai passé ma vie à imprimer des conneries. Vraiment beaucoup. Alors, vous savez, quand vous avez travaillé pour la presse du cœur, quand vous avez travaillé à Paris Turf, des moments de la conscience pareil. Ça, moi je me dis toujours, si 99% de ce que je fais sert à l'autre, c'est-à-dire à celui qui est en face, qui fait tout pour m'abrutir, pour ne pas me faire prendre conscience, on a tous les grands mots, il y a au moins 1% qui passe quand même. Et ça, c'est notre outil de libération numéro 1. C'est grâce à ça que je suis bien content de toucher à ça aussi.
Madeleine Reverioux, historienne, auteure de « Les ouvriers du livre et leur fédération » aux éditions Messidor.
Au cours du 19e siècle, le travail des ouvriers du livre, oui, je crois que c'était des ouvriers différents des autres, peut-être moins, ou pas comme on le croit, parce qu'il y avait d'autres branches, d'autres métiers, exigeant une haute qualification pour qu'on puisse les exercer dans des conditions convenables, organisés avec dans des sociétés ouvrières qui ne s'appelaient pas forcément syndicats. D'ailleurs, le terme syndicat pour le livre n'apparaît qu'en 1881, quand est créée la Fédération française, qui va s'appeler dans 3 ans après Fédération française des travailleurs du livre, la fameuse FFTL. Jusque-là, ça s'appelait des sociétés ouvrières, ou bien ça s'appelait encore des sociétés de secours mutuel, etc. Mais le terme générique, c'était sociétés ouvrières. Et il y avait bien d'autres métiers qui pratiquaient ce genre de formation. Par exemple, ça a été le cas des ouvriers chapeliers, c'est le cas des ouvriers en construction mécanique fine, et bien d'autres. Et même c'est le cas d'ouvriers qui font un travail manuel très, très lourd, très dur, très pénible, et qui n'ont pas les compensations intellectuelles, si j'ose dire, qu'évoquait Jean-Jacques Eisenman tout à l'heure, par exemple ce qu'on appelait les portefaix, d'où est sortie l'organisation des dockers. Bon. Donc c'est une pratique très ancienne, c'est le monde des anciens ouvriers de métiers qualifiés, organisés dans des associations ouvrières, pour lesquelles il ne saurait y avoir qu'un syndicat. Alors l'idée du pluralisme syndical est évidemment parfaitement absurde. Pour ceux qui ont vécu dans un monde, qui sont organisés dans un monde, le monde du 19e siècle, où le syndicalisme était pourchassé, n'existait pas, où les sociétés ouvrières, même quand elles ne s'appelaient pas syndicats, se faisaient reconnaître pour toutes sortes de raisons, mais en même temps étaient soumises à toutes sortes de comportements répressifs, et qui ne pouvaient survivre que parce que les patrons avaient besoin d'eux. Et parce que les patrons ayant besoin d'eux, ils allaient être amenés à discuter avec eux. Et donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas un monde très différent des autres. Si on remonte au milieu du 19e siècle, ou même encore jusque dans les années 1890, si vous voulez, le grand tournant de l'histoire ouvrière, c'est ça, c'est la fin du 19e siècle. Hein. Puis le deuxième, c'est maintenant. Dans l'intervalle, il n'y a pas grand-chose. Mais jusque dans les années 1890-90, la CGT se constitue en 1895. Vous avez des sociétés ouvrières et des militants, des ouvriers qui en font partie, qui sont quasi automatiquement des militants, parce que pratiquent la solidarité, parce que, et puis souvent international en effet, les ouvriers du livre ne sont pas les seuls à la pratiquer, ils la pratiquent plus que d'autres, mais plus systématiquement que d'autres, enfin ce n'est pas les seuls à la pratiquer. Bon, avec les mineurs, c'est la même année, les mineurs, 6 mois de différence, ce sont les premières organisations internationales ouvrières stables et qui se définissent comme des organisations professionnelles, pas comme l'Association internationale des travailleurs, l'AIT, qui est une organisation d'ouvriers qualifiés, mais qui est une organisation à la fois professionnelle et politique. Hein? Bon. Eux, non. C'est uniquement une organisation professionnelle. Il me semble que le moment de la spécificité la plus forte concerne les années qui vont précisément de 1880-90 jusqu'à aujourd'hui. C'est en effet pendant ces années-là que s'est effrité le syndicalisme né des associations ouvrières dans toutes sortes d'autres branches professionnelles, à l'exception du monde du livre d'une part et d'autre part des dockers. Et maintenant, ça s'est effondré chez les ouvriers du livre il y a une dizaine d'années, après la grève du Parisien libéré, grand succès mais grande défaite aussi, mais en même temps grand succès. Et ça s'est effondré chez les dockers en ce moment. Donc c'est la fin des sociétés ouvrières de ce type, c'est la fin du secteur de la CGT qui reposait sur cette conception-là.
C'est aussi la fin du travail.
C'est la fin du plomb, bien sûr. Oui, oui, oui. Enfin, c'est la fin du plomb, bien sûr. Oui, oui, non, mais rien ne s'achève sans qu'il y ait des raisons technologiques. Et, bon. Vous savez, les ouvriers du livre, ce qui est intéressant, à mon avis, une de leurs spécificités quand même, c'est que dans la première moitié du 19e siècle, très exactement en 1832, ils ont choisi d'être salariés, ouvriers. Ils ont choisi à Paris. Il y a eu une assemblée générale. 1832, c'est le lendemain de la révolution de 1830. Donc, on était encore dans une phase où il y avait beaucoup d'espoir investi dans le monde ouvrier autour, à partir de la révolution de juillet 1830. On disait, ça va être la libération ouvrière. C'est pas seulement la libération politique. C'est pas seulement la fin de la restauration. C'est aussi la libération du monde ouvrier. Bon, bref. Et une des espérances des travailleurs de cette époque-là, c'était de constituer des associations coopératives de production. On appelle des AOP. Bon. Et en effet, il s'en est constitué beaucoup. Et à Paris, les typographes parisiens, en se contactant d'atelier en atelier, ils ont fini par tenir une assemblée générale où ils étaient un peu plus de 3000 sur les quelques 4000 ouvriers qu'il y avait, c'est-à-dire une proportion absolument énorme. Et ils ont débattu pendant tout un dimanche sur ce qu'ils choisissaient. Et la proposition de cette réunion venait d'un ouvrier du livre lui-même qui s'appelle Jules Leroux, qui est le frère d'un socialiste très connu dont on dit qu'il a inventé le mot socialisme, Pierre Leroux, lui-même ouvrier du livre, d'ailleurs, et compositeur, ami de Georges Sand, etc. Et Jules Leroux voulait leur proposer de créer des coopératives de production, de s'orienter dans cette voie. Alors ils ont eu une délibération très longue et ils ont voté à la majorité que non. Et qu'ils choisissaient le statut de salarié et le statut de discussion, de négociation, comme il dit, mais de discussion avec le patronat, et le statut de salariat, c'est-à-dire le statut de l'association ouvrière destinée à devenir le syndicalisme. Vous voyez ? Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Je ne connais pas d'autres branches professionnelles dans laquelle il n'y ait jamais eu un vote de ce genre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des AOP d'ouvriers du livre et de typographes en particulier, bien sûr, ou d'imprimeurs, naturellement il y en a eu, mais la majorité au suffrage universel ouvrier, comme on disait, avait voté que non, eux, ils choisissaient le salariat, donc la voie de ce qu'on n'appelait pas encore le syndicalisme.
Nous sommes des anarchistes totalement bidons. Hein. Nous sommes des anarchistes dans la tradition, mais nous sommes les champions du monde de la conciliation de classe dans la mesure où nous sommes paritaires pour 14. Depuis des années, depuis des siècles, dès le début, nous voulons surtout discuter avec les patrons. Ah oui, nous sommes les champions de cette histoire. Hein, c'est nous qui avons mis en place les premières conventions collectives avant tout le monde, bien sûr. On était suffisamment forts pour pouvoir le faire. Hein, c'est à cause de ça aussi. Mais en même temps, nous avons une telle tradition de dérision, une telle tradition de qui se passe parfois avec de la rigolade. Vous savez, la convivialité du livre, c'est chouette d'ailleurs. C'est vrai que je travaillais depuis... J'avais 16 ans, je suis passé chez Zéluc, il y avait une trentaine d'ouvriers. Mon premier boulot, c'était l'article 4. Alors, l'article 4, c'est l'article des ateliers. Il y a un règlement des patrons, hein, règlement d'entreprise des patrons. Et puis il y a un règlement des ouvriers. Moi, je n'ai jamais connu que l'article 4. L'article 4, c'est quand sur ma galée, sur laquelle je travaillais, il y avait un caractère en bois. Le 4, il fallait que j'aille chercher les litres de rouge. Les litres de rouge, c'était l'article 4. J'allais au bistrot du coin où il y avait un compte ouvert et je me ramenais avec mes litres rouges, etc.
Vous voulez dire qu'on buvait beaucoup ?
Ah oui ! C'est un métier. Non seulement on buvait beaucoup, mais on a très vite bu du bon vin. Ah si, c'est un des métiers, c'était une des grandes plaies du métier, la boisson, bien sûr. Même après, Après la guerre, on buvait plus du vin, on buvait du whisky. Mais enfin, les halas, je ne sais pas si vous avez jamais été convié à un halas, à la santé du confrère qui va nous payer à boire aujourd'hui, c'est une chanson qu'on chantait traditionnellement, on la chante moins, mais on la chante encore parfois. C'est des grandissimes gueuletons. Il y a des caisses de halas qui sont gérées avec un amour, vous ne pouvez pas vous imaginer. D'ailleurs, il faut être honnête, dans les grosses boîtes, la caisse de halas est la même que la caisse de résistance et la caisse de solidarité. C'était pas pour nous. Dans nos cotisations syndicales, nous payons, à l'époque, je ne sais pas si ça a changé, il faut vraiment enseigner, nous payons 19% de ce que nous payons pour la caisse de résistance. Ce qui veut dire que nous avons été une corporation qui a pu se permettre de temps en temps de faire des grèves et les copains pouvaient durer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous êtes trop jeune, mais l'histoire du Parisien libéré en 75, vous en souvenez, c'est très bien, nous avons fait une grève quand même qui a duré 29 mois et dans lequel 4500 ouvriers ont donné 10% de leur salaire pendant 29 mois à 85%. Madeleine dit 90.
C'est remarquable.
Croyez ? C'est extraordinaire. J'étais dans ceux qui ont, au début, discuté beaucoup. Si j'avais su que ça allait durer 29 mois, jamais j'aurais voté ça. Jamais. C'est pas possible. 29 mois, vous rendez compte ? On a tenu.
Allah, Allah, Allah. Allah, sauvé du confrère.
Ça, c'est même incroyable, je trouve, Gérard Blanchard, parce que ça, c'est aussi un enregistrement qui date d'il y a une quarantaine d'années, et on a vraiment l'impression que c'est une prière à Allah.
Non, 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 c'est l'Alali de la Saint-Hubert. Hein, c'est l'imitation des cors de chasse, c'est-à-dire que c'est sur une mélodie populaire bien connue, etc., finalement, quelque chose de très profond dans la corporation des typographes qui se dit à travers ça, mais qui se dit à travers des formes qui, je le répète, sont des formes empruntées, dégénérées. Je veux dire, la vraie référence de ce « Allah », c'est la messe.
À la santé du confrère qui nous régale aujourd'hui, ce n'est pas de l'eau de rivière, encore moins de celle du puits. Alors, parce que je ne me souviens plus. Allah, Allah, Allah. Puis on disait, enfin, pas d'eau, pas d'eau, pas d'eau. Alors, c'était du vin, bien entendu.
Dans la typographie, le vrai correcteur, c'est le vin. Le vin. C'est-à-dire que Rabelais, qui connaissait très bien les banquets compagnoniques d'imprimeurs, met en évidence, à travers toute son œuvre, sous forme d'une espèce d'immense parabole, une mystique du vin. Et comme agent de convivialité entre les typographes, et je me rappelle toujours que, par exemple, on n'était jamais intronisé typographe sans être passé par le comptoir du bistrot du coin, ça c'est évident, d'où l'accusation de la part, toujours depuis, par les maîtres imprimeurs, d'ivrognerie de la part des typographes, mais je crois qu'il faut l'entendre au sens tout à fait profond, c'est le trinque de la dive bouteille de Rabelais.
Allah, 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 santé du confrère, qui nous régale aujourd'hui, ce n'est pas de l'eau de rivière, de celle du puits. Allah, Allah, Allah. À la santé du confrère qui nous régale aujourd'hui.
Et alors là, on boit.
Mais dans un bon atelier traditionnel, on faisait bien le Allah trois fois par jour. Hein. Oh bon, absolument. En mangeant d'ailleurs aussi le saucisson et le jambon.
Avec Raymond Gide, un des grands typographes graphistes français. Qu'est-ce que vous aimez dans le plomb, dans le maniement du plomb? Qu'est-ce que vous avez aimé?
Ben, l'odeur. L'odeur, si on peut dire, qui n'est pas le plomb.
C'est quoi l'odeur?
L'odeur.
Ah, l'odeur.
Oh, bien que l'odeur de l'imprimé est une chose qui compte. Formidablement.
C'est quelle odeur?
L'odeur de l'encre. C'est le vice de l'odeur de l'encre. Ça, je crois que vous ne rencontrerez pas un imprimeur qui n'ait pas cette maladie.
Ça sent bon?
Quant au plomb. Ça sent indéfinissable. Je ne peux pas définir. D'autant plus que j'ai perdu l'odorat. Alors ça arrange tout.
Qu'est-ce que vous avez aimé d'autre dans le plomb? Parce que le plomb, tout de même, c'est lourd, c'est sale.
Ça, oui. Ben, je me lave les mains, de temps en temps, comme tout le monde. Pourquoi vous dites du mal de ce plomb?
Parce que je voudrais que vous m'en disiez du bien.
Ben, c'est évidemment un compagnon bien lourd, à côté du peu de place que tiennent quelques pellicules photographiques, qui sont devenues par la suite des zingues sur lesquelles on les a mis, ou zingues aluminium ou autre chose. Donc il y a une aisance de la nouvelle typographie et une moindre occupation de place.